danseuse.
Ouais.
Hashtag matelas.
J'ai acheté un matelas d'une boîte.
Oh mon Dieu, ok, ok.
Ah, mais c'est malade. Hey, pour vrai.
Il m'a texté pendant les vacances pour me dire « Je t'écoutais en onde. Par ta faute, je me suis acheté un matelas en bois. »
Ouais. C'était avant que le matelas arrive puis je voulais y faire porter le poids de la culpabilité si je dormais mal là-dessus.
Et le poids du matelas aussi, puisqu'il est assez costaud.
Ouais, ben tu m'avais tellement dit que c'était lourd que finalement, j'ai pas trouvé ça si pire, là, mais c'est impressionnant quand ça sort de la boîte.
Mais ça prend-tu comme un 24 heures, mettons, à bien prendre forme puis gonfler puis tout? Non?
Non, c'est 5 minutes.
Parce que moi, j'ai acheté des oreillers en boîte. Je les ai pas encore ouverts, par exemple.
OK.
Me demander si t'as le
déménagement.
Ouais. Mais... ce déménagement-là, là.
Oui.
Ouais, ce coup-là, t'es ouvres tes boîtes.
Il n'y en aura plus d'autres.
OK, parfait. Good.
Seulement, je vais vivre dans.
Je te le souhaite. Il y a des belles choses qui arrivent dans la vie. On va parler justement des gens qui ont peut-être des problèmes à dormir, puis on va vous donner des trucs. La dernière fois qu'on lui a parlé, c'était une stagiaire sans emploi et elle réalise son rêve. Elle est maintenant une employée épanouie chez Leclerc Communication. Ariane est de retour. Ariane Bourbeau, bonjour.
J'en peux plus.
Ben, je le sais.
Ça t'ennuyait-tu, Denis?
Mais pour vrai, oui, parce que les dernières chroniques que j'ai faites étaient tellement sympathiques, douces, que je me suis perdue.
Ah, parce que Denis était en vacances.
J'ai perdu la flamme.
Ah, ouais, ton mojo était
pas comme le prendre.
Ouais, mais quand j'insulte
Denis,
pas les gens.
Denis, c'est le yin de ton yang, c'est ça?
Moi, quand c'est pas passif-agressif, on dirait que... Fait que je sais pas, là.
Quelque chose qui manque.
Ouais. Hein?
Ben, je suis contente de te voir de bonne humeur puis avec nous autres.
Non, mais moi aussi, je suis contente d'être là.
Bon, tabarnouche. Les problèmes de sommeil, c'est des histoires de vieilles personnes comme moi, comme Véro, mais il y a quand même des trucs qui existent et qui existent depuis très longtemps.
Depuis 1927, au Japon.
OK, au Japon.
Oui, mais là, j'aimerais ça qu'on se mette dans le vif du sujet. Puis c'est quoi la meilleure façon d'amener ça que de vous demander qui est-ce qui veut se coucher à terre?
OK, ben je vais le
Denis.
Faire.
Denis.
Ça va être Denis. Le tapis n'est pas super.
Faut que je me couche par terre.
C'est super sérieux. Faut que tu te couches par terre. Puis il faut quand même un petit peu d'espace parce que moi, je ne l'ai pas testé. J'aurais pu le faire, mais c'est bien plus drôle si tu le fais.
Okay. On est tous habillés en blanc en plus, nous autres.
Moi, c'est ça. Toi, t'es habillé enfoncé, tu le fais.
Puis je ne suis pas enceinte, mais je porte le ventre. Là, mais je vais me sacrifier pour l'entreprise.
C'est sympathique.
Oui. Je vais enlever mes Crocs.
Ah oui, ben oui.
Oui, c'est en ligne pour une nuit de sommeil. Là.
Ah ben écoute, moi, si je m'endors, c'est terminé. Vous finissez le show tout seul.
Bon. Ouais. Okay, mais si ça fonctionne,
j'y vais. Fait que là, faut que je me mette sur le dos, j'imagine?
Oui. Okay. Fait que là, tu te couches sur le dos. Bon. OK.
Fait que là, on perd Denis. Continue.
Non, je suis là.
Yeah. Il lève le son de son micro.
Okay. Bon.
Denis, c'est pas grave, c'est pas pertinent de toute façon. Parle pas. Là, l'important, c'est que tu vas lever tes bras.
Attends un petit peu. Est-ce que la femme de ménage passe encore le soir?
Je ne sais pas dans le studio.
Okay. Non, c'est
Steven qui t'en charge, je pense.
j'ai comme des problèmes hygiéniques, là.
Ça m'écœure pour toi.
Ouais, ben là, c'est parce que je partais pour déposer ma tête, puis finalement, il faut que je trouve un spot, là. C'est comme atterrir sur la lune, là. Il y a bien des grammants, là.
C'est vrai que t'as pas de cheveux pour te protéger.
Non, du tout. OK, je suis rendu. C'est bon.
OK.
OK, c'est quoi le truc?
Denis, lève les bras en l'air.
Comme ça?
Faut que je vois ça.
Oui.
Comme un somnambule,
là? Ouais, comme un somnambule. Comme un zombie.
Un
zombie, exactement. Okay. Puis là, tu lèves les jambes de la même façon, mais avec tes pieds à plat, comme si t'allais marcher sur le plafond.
Il va tellement faire
oh,
mal.
Oh, mon Dieu.
Ouais,
okay,
mais
okay,
t'sais, t'as pas besoin de pousser tant que ça. Là.
Non, mais c'est pas le truc pour faire des enfants, ça.
T'as dit que tu faisais une grossesse sympathique ou pas?
Ben, non!
Embarque!
Le truc pour écarter les jambes arrive tard dans le processus, là.
Lève
tes jambes. OK. Comme ça?
Hey, je pense que c'est pas vrai, puis c'est juste Ariane qui se venge pour toutes les fausses qu'elle est venue en studio puis que Denis l'a écœuré.
C'est tellement mon rêve.
Mais là, je peux pas dormir demain.
Bravo, Sherlock. Brasse-toi les jambes puis les bras.
Ah, faut les brasser.
Secoue-les, là. Secoue-toi.
OK. Sébastien!
Hey, pour ceux qui voudront voir, là, faites-vous empoudrer, t'es en train de tout documenter.
OK. Puis là.
OK, puis là, ben, tu fais ça pendant 2 minutes, fait que tu peux être en silence si tu veux. Comme ça, moi, j'explique pendant ce temps-là.
Fait que brasse-toi pendant qu'Ariane parle.
Ouais, mais qu'est-ce que ça fait?
Brasse-toi!
Je vais te le dire. En ce moment, t'es en train de dilater tous tes vaisseaux et là, le sang se redistribue.
Brasse-toi pendant qu'Ariane parle. T'es un petit peu jeune pour moi, Véronique.
Oh. Je te regarde pas, Denis. Tu m'intéresses pas. Ah ouais, secoue-toi.
Shake tes pattes.
Ah oui, plus que ça, Denis, le shake.
T'as jamais été aussi proche de tes jeunes années.
Shake your body.
Bon, l'enjeu, c'est qu'en ce moment, t'es en train de réchauffer tes extrémités. Puis le milieu de ton corps va devenir à une température plus froide.
OK. Présentement, c'est le plus d'entraînement que j'ai fait depuis 6 mois.
Mais j'en doute pas, mais tu disais tantôt que tu voulais perdre du poids.
Puis là, c'est juste pour qu'on comprenne, là, juste qu'on suive. Là, ça, c'est une technique pour mieux dormir qui est une astuce japonaise qui remonte à 1927.
Absolument. Mais là, c'est ça a un peu dévié. Je pense pas que la technique japonaise est à 100 % comme ça.
Bon, tu me le dis là que ça marche
mais
pas.
Mais là, ce coup... Non, continue, ça fait pas deux minutes. Je vais te le dire.
Groupe Denis, là.
L'idée, c'est d'aller réchauffer les extrémités du corps. Puis c'est un peu ça que les Japonais essayaient de faire avec ces techniques-là. Il y en a plein. Il y en a que c'est aussi d'aller serrer tous les muscles le plus possible.
Il y a d'autres façons de réchauffer les extrémités de mon corps, je le confirme.
Que je te trouve chaleux, là. Non, mais fermez son micro. Non, le but, c'est de réchauffer tes extrémités, puis ça aiderait à ce que la température se régule pour t'endormir plus vite. Okay. Au Japon, on priorise vraiment ça. En 1927, on avait commencé à intégrer ça, puis ils ont plein de techniques comme ça qui sont basées un peu... Leur culture est quand même très concentrée sur le bien-être du corps. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Puis après ça, ben, la science s'y est penchée. Puis en 1999, on a commencé à faire des vraies études scientifiques.
Ouh. Mais là, avant que tu nous expliques justement toutes ces études...
Ça marche, je suis fatiguée.
Ça... C'est sûr, t'es brûlé.
T'es censé pouvoir dormir après. Essaye donc, voir.
Mais c'est, pourquoi? C'est que ça revient? Ça, je comprends pas.
Ben, c'est une grosse tendance en ce moment parce que c'est la tendance du moment, c'est le bien-être. Okay? Mm-hmm. On est dans
par tous les moyens. Là.
Par tous les moyens, on ne sait plus quoi faire. Le maxing, l'idée de s'optimiser, fait que ça passe par le sommeil. Si t'es fatigué, t'es pas productif, t'es pas la meilleure version de toi-même, donc faut avoir un bon sommeil. Mais là, comment faire?
L'avoir bon et l'avoir rapidement, j'imagine.
Oui, oui, parce que tu sais, nous, on est un peu impatients. Puis ces réseaux, les tendances, c'est efficace. C'est des vidéos de 10 secondes. Là. Faut pas qu'on...
On a la solution pour vous.
Oui, fait que là, c'est l'idée, on véhicule vraiment le message de « on a la tendance pour vous ».
Je vais vraiment l'essayer, mais tu sais, quand t'arrives à un moment où t'es pas capable de dormir, là, parce que
oui.
Là, mais, présentement, je suis vraiment fatigué, je prendrais une petite sieste. Là.
Mais honnêtement, mais... je pense que je vais l'essayer à soir aussi, juste pour le fun, voir à quel point ça...
Tu vas-tu te filmer?
Ah, oh, s'il vous plaît.
C'est parce que ça serait compliqué, faudrait que je mette un pyjama, puis après ça, faudrait que je l'enlève.
Il y en a pas qui font.
Mais là, c'est ça, là, moi, j'ai une lacune au niveau du linge en ce moment, fait que non, je pourrais pas. Mais je vais vous en parler.
Mais là, pour une fois, cette théorie-là, elle sort pas de la génération Z. Là, on n'a pas inventé rien. C'est vraiment un vrai médecin. C'est des vraies études qui sont basées sur l'idée. Puis c'est
Ils ont été capables de prouver qu'il y avait une véritable raison d'être à ça?
Oui, puis non. Là, en 1999, ils ont prouvé que, pour vrai, quand tu as les pieds et les mains plus chaudes que le reste de ton corps, tu t'endors plus vite parce que ça envoie le signal vert à ta tête que tu peux dormir.
OK.
Ah, c'est bien drôle.
Puis là, après ça, en 2000, ils ont refait une étude pour confirmer cette étude-là qu'ils ont faite en 99. Puis une autre firme a décidé d'en faire une autre en 2021, mais avec les bains chauds. Fait qu'est-ce que prendre un bain chaud avant de se coucher, ça peut aider? La réponse, c'est oui.
Ouais.
Parce que tes extrémités restent chaudes, puis le reste de ton corps se refroidit tranquillement.
Il y a combien de monde qui dorment avec des bas?
Mais c'est ça, j'allais dire.
Puis tu sais, le réflexe, souvent, quand on se couche, les mains vont se retrouver sous l'oreiller, sous la tête, ou encore sous le corps pour se réchauffer.
Oui, oui.
C'est-tu quelque chose qui est dans l'ADN de l'humain depuis, je sais pas moi, la préhistoire, peut-être. Parce que tu pouvais pas t'endormir si t'avais fret, parce qu'il y avait des enjeux. Non, mais sérieusement, c'est-tu ça? C'est-tu, dans le fond, c'est l'instinct de survie de ton corps qui embarque.
C'est fort. Pourquoi tu me regardes comme si j'étais une grande antiquaire qui allait te sortir une théorie, là? J'ai 23 ans, Denis. Je sais pas ce que le préhistorique faisait, là.
Non, puis t'imagines que moi, mais... j'ai vécu ça, la préhistoire, là.
C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais ça, je peux pas te le dire.
Ah, c'est
mais
intéressant.
Ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment plein d'études qui le montrent, puis ils l'ont même fait avec des bébés aussi pour voir s'il y avait une différence entre l'âge adulte puis l'âge bébé, l'âge nourrisson.
Ça revient au même.
Puis ils ont vraiment fait avec plusieurs cas d'études. Puis on s'est même rendu compte que, puis là, ça, on sait pas trop pourquoi, mais les femmes, ça fonctionnerait mieux, puis ça serait une question hormonale.
OK.
Puis ça fonctionne vraiment. Est-ce que la technique de lever les bras, lever les pattes, c'est parfait? Oui, puis non. Là, il y en a plein des techniques. Il y a de la respiration, il y a tout ça. Mais...
On nous suggère une autre solution. Quelqu'un nous texte en disant « Je suis certaine que c'est vrai, Dr. Bamé, je mets un sac magique sur mes pieds pour m'endormir.
Ah! »
Je vous dis que ça fonctionne.
Mais le pire, c'est que dans les dernières années, tu parlais des poupons, mais je veux dire, on a beaucoup popularisé les dormeuses ou les bras, les petites mains, les petits pieds,
Dieu,
tout,
oui.
Sont toutes dans le même trou. Là,
pour dans
être
cocon,
là? Oui, pour être sûr que les extrémités ne soient pas, mettons, éloignées, justement pour garder cette chaleur-là, fait que probablement que ça fait un certain sens.
C'est pour ça qu'on est toutes moues. En sortant du spa, là, on vient de comprendre deux, trois affaires.
C'est vrai que oui. Tu vois, je me suis demandé, Denis, est-ce que les gens qui sont chauves doivent aussi réchauffer le bout de leur tête? Parce que c'est le concept des extrémités. Non, mais attendez, parce que ça partait d'une question niaiseuse, mais j'ai cherché.
OK, puis?
Il n'y a pas d'études là, claires, mais tu perds la température de là.
Tu dors-tu avec un bonnet?
C'est vrai.
Ça serait mourant, ça. Oh, mon Dieu,
il y a des études qui disent que tu perds de la chaleur. Je pense que tu devrais y penser, Denis.
Mais tu me demandes la question d'Arthur avec un bonnet. Tu m'as pas reconnu dans le dernier épisode de La Petite Vie?
Ah, c'est toi!
Ah, t'es rien ou jamais revenu, là. Oh. Hey, merci, Ariane.
Un bonnet puis sa machine. Hey, ça va bien, ça.
Son célibat éternel est assuré.
Ah, oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas une technique parfaite parce que visuellement, j'imagine que c'était pas très beau à voir mon affaire.
Ben, tu revois sur l'Instagram de Boulevard, c'est là.
Bon.
Ben non, mais il fallait montrer aux auditeurs le visuel. On fait quand même, on fait de la radio. Oui.
C'est pas à ton honneur, Denis.
Non, mais.
C'est pas ton avantage.
Ça en prend ça moins que ça pour que je reçoive des insultes. Il est 5h10. Vous êtes à Boulevard 102.1. S'il y a des gens qui l'essayent pour vrai, là, vous nous donnerez des nouvelles.
Ben on l'essayera ce soir, sans blague.
Oui, si vous vous filmez pas et que vous envoyez pas le vidéo, c'est comme si vous l'aviez pas fait. Oh. Fait que c'est de même, ça marche. J'ai été le premier, ça prend d'autres cobayes. On s'arrête, on vient.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans le retour, par texto 88 971.
5h15 à Boulevard. Une fois de temps en temps, on veut regarder ça d'un peu plus près. Parce que oui, Netflix et les autres services de streaming aiment ça nous pousser leur top 10, là, avec très peu de subtilité.
Oui, quand ils mettent les émissions les plus regardées, j'ai toujours un doute que c'est véritablement les plus regardées. Je pense que ça a été boosté en quelque part pour qu'ils nous incitent à consommer leur production.
Tu le remarques quand il y a un film numéro 2 ou une nouvelle saison, ils vont mettre des fois les premières dans le top 10.
J'ai travaillé dans un magasin de disques. Il y avait un top 20 des meilleurs vendeurs.
Ouais.
Moi, je vous confirme qu'on y comptait pas. Là.
Mais là, c'est sûr.
Tu y vas avec celui-là, t'en as commandé beaucoup. Fait qu'il faut t'en vendre beaucoup. Fait que lui, c'est notre meilleur vendeur.
Il y a un nouveau documentaire produit par Netflix, numéro 1.
Et voilà, nouvelle série de télé-réalité produite par Netflix est dans le top 10 aussi. Ouais. Pas de stress.
C'était le principe des tonnes de copies au Superclub Vidéotron.
Ben oui.
Parce qu'il y en avait beaucoup. Tu disais, c'est sûr, c'est un bon film, je vais partir avec.
On tombait toutes dans le même panneau ou à peu près. Mais là, toi, les chiffres que t'as, c'est quoi?
Bon, les premiers que j'ai à vous présenter, c'est Nielsen, qui est la compagnie qui sonde les habitudes d'écoute, autant la télé traditionnelle que sur les plateformes de streaming, qui a sorti son palmarès de ce qui a été le plus regardé. En fait, les dates, là, c'est vraiment du 29 décembre 2025 au 28 juin 2026. Fait que c'est considéré comme étant la première moitié de l'année 2026 et on comptabilise ça en minutes d'écoute.
Les vrais chiffres, ils les ont toutes. C'est des plateformes de streaming, mais ils les partagent pas,
c'est ça? Ils les partagent pas. Fait que c'est pour ça que c'est une firme de sondage qui pose des questions et qui arrive avec ces statistiques-là. Tu sais, mettons, quand Netflix, ça fait son affaire ou quand Prime ou Paramount, ça fait leur affaire...
On a battu un record.
On a battu un record. C'est notre série qui a été la plus regardée. Tu sais, ils vont le pousser, mais c'est des chiffres comme ceux de Nielsen qui vont souvent confirmer ou infirmer les tendances.
Ben, c'est pas Disney qui en pousse un chiffre présentement, là, avec un nouveau film?
Actuellement, c'est Le Diable s'habille en Prada 2 qui est disponible depuis à peu près 5 ou 6 jours sur la plateforme de Disney, qui est actuellement le film en prise de vue réelle qui aura été le plus écouté sur 5 jours, battant un record qui avait été battu par Deadpool et Wolverine quand il avait été mis en ligne. Ça avait été beaucoup regardé. Et là, on dit que c'est 15,2 millions d'écoutes globales sur les 5 jours de disponibilité. Le film est cute. C'est pas un grand film.
Ouais, c'est
pour
pas
l'avoir
ce que
regardé.
Tout le monde
là,
dit,
je pense que c'est le marketing qui a tellement été bien fait.
C'est parce qu'à l'époque, Meryl Streep, c'est une star depuis des décennies. Anne Hathaway n'était peut-être pas une aussi grande star qu'elle est au moment où on se parle. Emily Blunt était une actrice quasiment inconnue, alors que depuis ce temps-là, mon Dieu, c'est une fille qui fait du box-office comme ça n'a pas de bon sens puis qui est ultra talentueuse. Fait que c'était une manière de ramener cette distribution-là puis de faire un film charmant.
Oui, on l'a vu dans les bandes-annonces. Finalement, Bruno Marchand, as-tu fait le film?
Non, il a pas fait le film, Denis.
Non? OK.
Niaiseux.
Faut pas que tu crois tout ce que tu vois sur les médias sociaux. Pour revenir au chiffre de Nielsen, là, ils ont séparé ça en film et en série. Si on y va avec les séries, selon vous, quelle a été la série la plus regardée depuis la fin décembre jusqu'au mois de juin?
C'est-tu des nouveautés?
Oui et non. C'est ça l'affaire.
C'est Netflix?
C'est Netflix qui l'a. Okay. Et c'est 23,26 milliards de minutes entre le 29 décembre 2025 et le 28 juin 2026.
C'est quelque chose comme Friends ou...
Non, c'est quelque chose de plus récent, mais qui a connu sa conclusion.
The Office?
Non. C'est Stranger Things.
Ah,
on a tendance à oublier que Stranger Things a sorti carrément à la fin de 2025 pour ce qui est des finales. On avait séparé ça entre Thanksgiving puis Noël.
Puis 100% de son public, c'est sur la plateforme de streaming parce que ça n'a pas existé avant, ça n'a pas sorti sous d'autres formats.
Puis tu sais, il y a même un... De ces 23 milliards de minutes, il y en a un 8,4 milliards juste pour la semaine où la première partie de la finale a été présentée. Puis souvent, ce qui arrive avec ces séries-là qui viennent à une conclusion, puis qui sont considérées comme des séries pratiquement épiques, tellement qu'il y a eu un gros suivi autour de tout ça, c'est que dans les jours et les semaines qui vont précéder, les gens vont faire du rattrapage ou encore vont réécouter. Moi, j'ai réécouté l'avant-dernière saison. Je voulais me remettre dans le beat. Je voulais savoir sur quelle conclusion on s'était laissé. On repart de où? Parce que tu veux pas rater le moment où tu vas regarder ton premier épisode.
Je suis deux saisons en retard de Stranger Things. Je te confirme que quand je vais recommencer, je vais recommencer au début. Là. Pas le choix. J'ai tout oublié.
Bien, on a oublié ce qui est sorti la semaine passée, j'ai l'impression aussi. Là,
c'est pour ça que je trouvais ça le fun de regarder ces chiffres-là.
J'ai vu plein de beaux documentaires cet été. Je me souviens du dernier que j'ai vu, les autres. Je les ai complètement oubliés.
Ben oui, exactement.
Niaiseux de même.
Toujours dans les séries les plus regardées dans la première partie de l'année, c'est une série de HBO qui est présentée sur Crave au Canada qui s'appelle The Pit. Le Pit, c'est la série médicale qui est en train de tout gagner. Ce serait la série médicale la plus réaliste si on se fie à des gens qui travaillent dans le domaine. Ça se déroule dans une urgence. C'est très graphique. Ça, je pense aussi qu'on le recherche beaucoup. Tu sais, on a vu du graphique dans des séries d'horreur, dans des séries de meurtres, mais on dirait que dans quelque chose de très concret comme une urgence de traumatologie, on avait toujours été assez soft. On se concentrait beaucoup plus sur, oui, un cas, mais les histoires d'amour qui se faisaient à la place ou ce qui change les serviettes. Salut, Grey's Anatomy. Et dans le cas de Pitt,
on est
oui, pour aller faire des petites galipettes.
Ben,
t'es-tu allé à l'hôpital récemment?
Oui, c'est poche.
Pas tant hot. Hein?
Non.
Le numéro 3 appartient à Bridgerton de Netflix. Le numéro 4, Landman. Si vous êtes dans l'univers de Yellowstone, vous savez exactement c'est quoi.
Ouais, okay,
si vous n'êtes pas dans l'univers de Yellowstone, je pense pas me tromper, hein? Landman, c'est bien Yellowstone.
Je pense que oui.
Les gens vont me corriger par texto.
Mais ça
je suis pas
fort,
capable de suivre. Il y en a tellement. Ouais. Puis j'ai pas embarqué. J'ai jamais réussi à finir le premier épisode de Yellowstone. C'est pas des jokes.
Oui, mais c'est la même gang.
C'est la même gang.
Ouais,
bon.
C'est exactement
donc,
ça.
C'est Paramount. Puis tu sais, Paramount n'a pas des gros succès en général. Tu sais, à part avoir produit le dernier Top Gun, puis à part avoir justement ces propriétés-là, le reste, c'est plutôt tranquille. La série de Lincoln Lawyer, qui est une adaptation de livre, fonctionne super bien. The Boys, qui a pris fin il y a quelques mois à peine sur Prime Video, est en sixième place. Puis les autres, c'est deux séries Netflix puis une série de Prime Video, Fallout, pardon, qui a conclu ça.
Je suis quand même surpris. Il y a beaucoup de séries dont on parle énormément, entre autres sur Crave, qui sont juste pas là. Là.
Qu'est-ce que, comme par exemple?
Ben, tu sais, un genre de House of the Dragon ou ce genre de série-là.
Mais House of the Dragon.
Last of Us.
C'est des séries qui sont tellement courtes. Ça va être des espèces de 8 épisodes qui vont sortir aux 3 ans. Mais tu sais, il y a moins de rythme dans leur sortie, puis ça leur nuit. Puis là, ce que je vous ai parlé, c'est des productions originales. Mais au fil des années, les services de streaming ont fait des acquisitions de séries qui avaient été produites par d'autres chaînes, souvent des chaînes généralistes. Si vous êtes parents, vous connaissez peut-être Bluey. C'est la série la plus regardée, c'est l'espèce de chien bleu. C'est une série australienne qui est sur YouTube, qui est partout, même South Park leur entrée dans ses pastiches. C'est ça, dans les séries qui ne sont pas originales, qui sont le plus regardées. Et c'est suivi, là j'ai pensé à Audrey, Grey's Anatomy.
Oh oui!
Grey's Anatomy, c'est maintenant Disney puis Netflix qui ont les droits de diffusion, puis encore au moment où on se parle.
Ils ont-ils closé là?
Ils n'ont pas closé encore, puis moi il y a beaucoup d'adolescentes qui ont commencé à regarder Grey's Anatomy à partir du début.
Mais qui arrivent à la saison 6, ils m'ont pogné deux minutes.
Oh, c'est-tu McDreamy qui...
Fait que c'est comme le nouveau Syndicated.
Oui!
Quand tu réussis à avoir une série complète qui est terminée, qui se ramasse sur plusieurs plateformes en même temps, dans le temps Syndicated, c'est que tu avais des réseaux de télévision qui achetaient la série au grand complet.
Ils passaient des CSI sans arrêt, par
ils
exemple.
Ils pouvaient faire des marathons la fin de semaine, puis ainsi de suite.
23 saisons de Grey's Anatomy. Ça m'intimiderait bien trop pour commencer.
Je comprends donc.
Mais tu sais, dans ces plus vieilles séries-là qui pognent encore, The Big Bang Theory, là, Family Guy, Paw Patrol, ça, c'est quand même drôle. Criminal Minds, The Rookie, Law and Order, SVU, NCIS. C'est toutes des affaires qu'on voyait passer sur
NCIS.
Des...
NCIS.
Ben oui, mais c'est encore dans ce qui est le plus
Family
regardé.
Family Guy est là-dedans. C'est quand même surprenant.
Friends est au numéro 16.
OK.
Les Simpsons sont au numéro 18. Survivor est là. Modern Family. Fait que, tu sais, on parle beaucoup de la nouveauté, mais il y a certains classiques qui continuent d'attirer l'attention.
Ben, je trouve que sur les services de streaming, on est comme chez Chaloux. On cherche le nouveau stock qui vient de sortir avant de regarder quoi que ce soit d'autre. Puis je pense que dans le temps des superclubs Vidéotron, c'est pas mal ça qu'on faisait aussi.
Ouais. Si on regarde plus ce qui pogne ces temps-ci, si on sort des 6 derniers mois, là, sur Netflix, le film 72 heures avec Kevin Hart est actuellement la chose la plus regardée. Sur toutes les plateformes de streaming qui ont des propriétés de Spider-Man, les films sont dans les top 5 parce que les gens ont fait beaucoup de rattrapage pour être en mesure d'aller voir le film qui est sorti jeudi dernier au cinéma.
Dans le top 10 de Crave présentement, il y a deux films qui ne sont pas des Spider-Man.
Ouais.
Le reste, c'est toutes des Spider-Man.
Ouais, parce que les gens ont choisi de les réécouter.
C'est triste quand on n'a rien à faire.
Puis,
hein?
Quand
dans les deux films qui ne sont pas des Spider-Man sur Crave, le numéro 1 et le numéro 2, c'est les Mortal Kombat. Parce que le nouveau Mortal Kombat est rendu disponible sur Crave. Fait que les gens ont réécouté le... Pas encore. J'ai écouté le premier que j'avais aimé, puis j'ai regardé le deuxième.
Ça manquait d'humour, je trouve.
Disney, je vous en ai parlé. C'était Le Diable s'habille en Prada 2 qui est au numéro 1. Sur Prime Video, La bouche du diable, qui est un film, c'est des gens qui partent en voyage en Thaïlande, ils vont visiter des espèces de, tu sais, de cavernes submergées. Et il y a un aileron de requin sur le poster. Fait que j'imagine que c'est le prédateur qui leur court après. Mais tu sais, entre autres, les maîtres de l'univers sont vraiment pas loin là-dedans. Projet Dernière Chance, si vous l'avez pas vu encore, qui est sur Prime Video. Bon film de science-fiction. Ton ami, Rocky La Roche.
Depuis que t'as parlé de La Roche, ça me tente tellement pas d'écouter ça. Là.
Mais sais-tu quoi?
Je le vois passer, je fais « Ah, wow! » Puis là, je fais « Ah non, c'est le film de La Roche! » Puis je fais « Non. »
Mais ils ont tout gâché en mettant La Roche de l'avant. Ils n'auraient jamais dû la publiciser, La Roche, en fait.
T'as tellement raison. Dans le livre, on l'imagine, puis c'est tard que ça arrive.
Ça prend un bout. Même dans le film, avant que tu comprennes que c'est une roche, là, ça prend vraiment un bout où ton imagination, tu penses à plein d'affaires avant de penser à ça.
T'as vendu un punch, finalement.
Mais pas en tout. Ils ont fait littéralement les tapis rouges avec.
Mais c'est quoi La Roche? C'est comme le ballon dans l'île avec Tom Hanks, là?
Ouais, si on veut, mais c'est un extraterrestre.
C'est son seul ami dans l'espace.
OK, mais c'est un vrai extraterrestre.
Ouais.
Okay.
Mais pour vrai, Dan,
le livre est bon.
Je pense que t'apprécierais le film. Moi, c'est pas mon genre de film, puis je suis capable de dire que c'était quand même bon. Là.
Ouais.
Ben là, c'est parce que c'est le
pas
gars
géologue.
C'est le gars qui se réveille dans l'espace, qui se souvient pas de son identité, qui est tout seul. Il est le seul survivant dans le vaisseau qu'il est. Puis.
Et tu viens motif.
C'est l'espèce de quête de pourquoi il s'est ramassé là, puis c'est essayer de retrouver la mémoire, puis tu vois en parallèle. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ils ont pris un prof de sciences, genre du primaire ou du secondaire, puis qu'ils l'ont choisi pour l'envoyer dans cette mission-là? Moi, j'ai trouvé ça absolument génial.
C'est charmant, pour vrai.
OK. J'aime mieux la fille de Roche que la Roche qui parle. C'est des choix.
C'est la Roche qui va te faire pleurer.
C'est ça le pire.
La Roche va me faire pleurer.
Ah, honnêtement, je me suis surpris. Puis moi j'ai ça quand ça devient trop farfelu. Puis quand je l'ai vu sur le moment dans le film, j'étais comme, oh. Mais honnêtement, tu t'attaches à Rocky.
C'est pas des jokes.
Manon vient d'écrire et je cite « Denis, on s'attache à La Roche ».
Bon, tu vois?
J'avais des doutes et j'ai adoré.
Il y a Projet Dernière Chance, c'est excellent.
Hey, calmez-vous les Roche lovers, là.
Non, je te dis, tu te prends à filer croche puis à... Je sais pas comment l'expliquer, pour vrai, il y a de quoi
faire. Filer croche pour une roche.
C'est ton devoir.
On va l'essayer à m'amener, c'est sûr.
Faut que tu regardes ça. Puis Ryan Gosling, il est super bon. C'est bien réalisé.
C'est quoi le nom du film?
C'est Project Hail Mary ou encore Projet Dernière Chance. Et c'est Prime Video qui l'a depuis quelques mois déjà en disponibilité.
C'est noté. 17h26. Un petit roche.
Il n'est pas sûr encore.
Non. Dès que je repense à la roche, on dirait que ça ne veut pas.
Qu'on voulait donc bien qu'il regarde, Véro, là.
Empathie.
Puis tu l'as toujours pas regardé, je
m'en... Non, j'ai vu un bon film. Ah, hey, je suis content que ça me soit revenu, ça. Je sais qu'il y en a plein des films sur la Deuxième Guerre mondiale, là.
Oh, t'as vu Pressure.
Mais oui.
C'est bon?
C'est écœurant, Audrey.
Savez-vous que c'est un météorologue qui a fait qu'on n'est pas nazi à grandeur de l'Amérique du Nord?
Tu sais, t'as l'impression que tu t'es tout fait raconter sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, il décide de te raconter l'histoire d'un météorologue qui devait conseiller sur le D-Day, le débarquement de Normandie, puis qu'il regardait des cartes, puis des courants, puis qu'il a dû s'obstiner.
C'est tellement bon, là.
C'est pas triste, là.
C'est stressant.
Non, mais c'est un film qui raconte, justement, les enjeux météorologiques sur le débarquement de Normandie. Puis ça, quand tu regardes l'histoire en condensé du débarquement de Normandie, tu sais, on l'a vu, on l'a revu dans des films,
toutes les angles,
des
romancé,
jeux.
Pas romancé, documentaire, tout.
Mais il y a tout le temps une phrase qui revient, puis c'est une phrase factuelle, puis souvent on va pas plus loin que ça de dire « Le débarquement de Normandie devait avoir lieu le lundi, puis ça a été remis parce que la météo était mauvaise. » Mais la pression qu'il y avait pour que ce météorologue-là, qui a été engagé par le gouvernement
américain,
tout le monde voulait attaquer le lundi. Parce qu'il se disait, 24 heures plus tard, là,
va être trop tard.
Il va être trop tard. Ils vont le savoir qu'on débarque là. Ils vont avoir compris toutes les fakes qu'on a faites, puis ainsi de suite. Ils vont allumer, on va perdre l'effet de surprise. Puis si on perd l'effet de surprise, on va se faire plumer comme des canards au printemps. Et lui, il avait son idée de fête, puis il refusait d'embarquer dans la certitude. Il disait, les chances sont très bonnes que ce soit une météo de merde. Peux-tu nous le garantir? Non, c'est la météo. Puis il s'ostine contre un autre météorologue qui dit, ah!
Il y a plein de fois que c'est arrivé, puis finalement, il faisait beau.
C'est ça. Il y a plein de fois que c'est arrivé, les mêmes conditions, puis le lendemain, il faisait beau. Moi, je vais vous le garantir qu'il fait beau. Puis lui, il disait, non, moi, je peux pas. Je peux pas, c'est pas de même que ça marche, la météo.
C'est tellement bien fait. Pis, c'est tellement stressant, là.
C'est où, ça?
C'est au cinéma actuellement, entre autres, puis vous pouvez le louer pour genre 15$. Là.
OK. Quand ça va tomber sur les services de streaming, je pensais que ça y était déjà, mon erreur. Ça vaut vraiment le détour. Et comment est-ce qu'il s'appelle celui qui incarne le général?
Brendan Fraser. Le gars de la momie dans le temps, là. Écoute, le gars cute, le gars de. C'est lui, l'homme d'un sino?
Oui.
C'est lui, hein?
Oui, oui, oui. Lui, il a fait le film Baleine, là.
Il a
gagné des prix pour ça.
Absolument.
Mais il mérite des prix là-dedans aussi, là. Il a vraiment... Il fait un job exceptionnel. Puis le gars qui fait le météorologue est un tabarnouche de bon acteur aussi. C'est vraiment un bon film.
C'est Drew Scott.
Puis c'est des films qui sont importants parce que on ne réalise pas à quel point c'est des petits détails presque anodins qui ont sauvé la démocratie en Amérique du Nord, qu'on prend pour acquis. On envoie n'importe qui au pouvoir, n'importe comment. On est blasé de tout. On nous demande de nous coucher à 8 heures pendant 2 mois, puis on vire sur le top. Hey, y a du monde qui ont été des grands hommes et des grandes femmes qui nous ont sauvé le cul pendant la Deuxième Guerre mondiale. Du monde qui ont déchiffré des codes. Mm-hmm. Des femmes qui ont déchiffré des codes, des opérations mathématiques. Mm-hmm. T'as un gars qui a réussi à comprendre le code que les Allemands avaient qui faisait en sorte qu'on n'était pas capable, même quand on captait des messages, de les déchiffrer puis de les comprendre. Lui nous a sauvé le cul. Un gars qui fait la météo, qui s'est obstiné contre des généraux agressifs qui disaient « Dis-nous ce qu'on veut entendre parce qu'il faut attaquer, on n'a pas le choix. » Il s'est entêté. Il a sauvé le débarquement de Normandie. C'était voué à ce que plein de gens perdent la vie, mais l'opération, en soi, elle a réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont attendu une journée de plus. Sans ça, elle ne marchait pas. C'est fascinant.
Ouais, mais je l'ai mis dans ma liste.
Puis c'est important. C'est important de se rappeler
le devoir de mémoire.
À quel point on a passé proche, souvent, de perdre ce qu'on considère pour acquis. Puis c'est un des nombreux films qui nous le rappellent.
Tu sais, de le perdre pour vrai, là.
Oui, oui, oui. Hey, crème, tu dis, toi? C'est quasiment peur, hein? J'ai quasiment le shake. Il est 17h31, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. On est sous le soleil, on a 27 degrés présentement à Québec. Il est 17h35, on va jeter un œil aux principales nouvelles de la journée, ce qui se passe, ce qui se brasse autour de nous autres et autour de vous autres. Le temps de vous rappeler d'abord que ce soir et cette nuit, journée chaude, humide et agréable, minimum de 16 degrés, ça reste dégagé. Demain, du soleil, maximum de 28. Jeudi, du soleil, maximum 30 degrés. Vendredi, nuageux, maximum de 29. Samedi, ciel variable, maximum de 28. Dans le trafic, Audrey.
Robert Bourassa, direction nord entre Charest et la capitale. C'est un gros ralentissement qui est présent actuellement. Si vous êtes sur Duplessis-Sud, vous allez chercher l'entrée du pont. C'est au ralenti. Sinon, c'est la 20 ouest entre Monseigneur Bourget et Chemin des Îles. D'ailleurs, si vous êtes sur Chemin des Îles entre Guillaume Couture et la 20, il y a un bon ralentissement qui ne s'est tenu pas pendant tout, en fait, là, depuis une couple d'heures. Il y a également des problèmes sur Guillaume Couture entre Chemin des Îles et Taniata. Le reste, ça semble rouler. Autre chose, 88-971-102 texto.
Véro.
Il y a un homme dans la cinquantaine qui a dû se donner toute une frousse un peu plus tôt aujourd'hui. aujourd'hui après être tombé dans la rivière Saint-Charles. C'est un peu avant 3 heures que des appels sont rentrés au 911 pour signaler ça. Ça semble être dans le secteur de Chauveau, fait vraiment dans le coin des rapides, fait que la portion haute de la rivière Saint-Charles. Puis, tu sais, dans la vie, des fois, il y a de la loc, là. Il y avait une équipe de sauvetage nautique qui était en entraînement dans le secteur, fait qu'on était capable de le localiser entre son point de chute puis l'endroit où se trouvait cette équipe-là, parce qu'il avait été capable, lui, de se retenir, si on veut. Fait que dans une intervention qui a été, somme toute, assez rapide, là, on est allé le sortir de l'eau. Donc, un peu avant 15 heures, tout a été réglé. Il a été pris en charge par les paramédics.
Très chanceux.
Très, très, très chanceux. Puisque, tu sais, une fois que tu pars avec le courant, tu es à l'abri d'absolument rien, là, d'un bouillon comme
même
de te péter
bon
à la tête. Puis c'est un secteur où ça peut brasser. Puis mine de rien, il y a eu des précipitations dans les derniers jours. Je comprends que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a eu dans les Laurentides ou encore dans le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Mais avez-vous vu les images du côté de... C'est-tu l'Assomption que ça s'appelle?
L'Ascension,
exactement, où il y a des bouts de route qui sont partis. Il y avait des rivières de chaque bord. Disons qu'ici, on est bien tiré.
Même juste en l'espace de 3 jours, de voir le débit de la chute Montmorency, là, comment ça a changé. Là.
Oui.
Ceux qui avaient la visite aujourd'hui, là, vous l'avez en total. Vraiment impressionnant.
Le Parti conservateur du Québec a annoncé un nouveau candidat aujourd'hui. C'est pour la circonscription de Louis Hébert, qui actuellement est occupé par Geneviève Guilbeault de la CAQ, qui ne se représentera pas. Donc, Marco Archambault, qui lui avait représenté le Parti québécois lors des élections de 2012 et de 2014. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est des questions que les journalistes voulaient poser à Éric Duhaime sur le droit à l'avortement. L'origine de tout ça, c'est les fameux parmi les messages, les centaines, les milliers de messages qui avaient été effacés.
Les
par
dizaines
le candidat,
de milliers de tweets parlant de politique.
Effacés par son candidat du côté de la Rive-Sud, Dominique Dumas, qui, lui, questionnait le droit à l'avortement, disait qu'on devrait ouvrir le débat. Éric Duhaime a dit à l'intérieur du Parti conservateur, la ligne de parti, c'est pro-choix. Je suis pro-choix. Il va suivre la ligne de parti. Et Dominique Dumas qui a dit, de toute façon, c'est un débat qui n'est pas de juridiction provinciale. Fait que je pense que ça va continuer à faire des vagues sur les médias sociaux, mais la sortie officielle a été faite de cette manière-là.
Moi, ce qui me surprend, c'est que même en effaçant ses tweets, on dirait que ça a laissé des traces. Je ne sais pas comment ça se fait.
Les écrits restent partout, même
quand
ils les
effacent. Il y en a qui me disaient, qui m'expliquaient que si tu enlèves tes tweets, tu ne te feras pas achaler par les journalistes sur des affaires épaisses que tu as pu dire au fil des années.
Ça, c'est débutant comme pensée.
Ben, tabarnouche, ils les ont retrouvés.
Ça pire les popettes.
C'est incroyable. Genre, mais je tombe à terre.
Qu'est-ce qui se passe?
D'ailleurs, une des adversaires de Dominique Dumas dans Chute de la Chaudière, la ministre et députée Martine Biron, qui on se demandait plutôt si elle se présentait. Puis oui, pendant la période des vacances, elle a confirmé qu'elle se représentait à l'élection générale. C'est servi justement de cette information là en disant que c'était troublant et inquiétant de voir qu'il y avait un des candidats d'Éric Duhaime qui était prêt à débattre de l'avortement au Québec parce que c'est s'attaquer à un consensus évident et un droit durement acquis par les Québécoises. Du côté du Parti libéral, alors qu'on annonçait aujourd'hui...
Moi, ce que je trouve drôle, c'est que dans Chute de la Chaudière, vous avez Radio X contre Radio-Canada.
C'est vrai, hein?
La bonne vieille guerre des médias qui fait juste changer de secteur pour s'en aller en politique.
Du côté du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, lui, a annoncé aujourd'hui, tout content, la candidature de l'ancien PDG de la Chambre de commerce de Montréal, Michel Leblanc, qui est une belle candidature là, pour la circonscription de Marguerite Bourgeois. Mais du même coup, il y a une députée libérale qui est là depuis 12 ans qui a annoncé que finalement, elle ne se représentait pas à la prochaine élection. Tu sais, l'élection va être déclenchée dans 3-4 semaines à peu près. Là. Mettons 4 semaines pour être juste dans les dates. Et Marie-Claude Nichols, qui est députée dans une circonscription qui est un château fort, là, celle de Vaudreuil.
Le monde devient fou pendant une campagne électorale.
Je sais pas, on va
ça
voir.
Ça devient moins le fun.
T'as-tu commencé à penser comment tu voulais gérer ça? Ou...
Le moins possible.
Parfait. De toute façon, okay. On a des gens sur la grille qui font un job extraordinaire pour faire des entrevues, puis suivre le beat, puis on va surfer avec eux autres.
Qu'est-ce que vous voudriez comme couverture électorale dans le retour? Puis effectivement, Véro a un bon point. Tu sais, avec la gang du midi, la gang du matin, c'est des gens qui font énormément d'entrevues, puis je présume que toutes les couleurs, tous les candidats, c'est des gens que vous allez entendre sur les ondes de Boulevard 102.1, fait que j'ai pas de stress à ce niveau-là. On a comme le beau jeu dans le retour de décider ce qu'on fait puis ce qu'on veut. Vous voulez quoi comme couverture pour la prochaine campagne électorale? Si vous avez des suggestions, voulez-vous toutes les entendre? Moi, personnellement, j'aime pas ça, mais si ça vous tente de les entendre dans le retour, puis quand je dis « j'aime pas ça », c'est que je l'écoute boulevard, moi aussi. Fait que c'est sûr que quand j'arrive l'après-midi, puis que j'en ai entendu le matin, puis que j'en ai entendu sur l'heure du midi, j'ai l'impression que la gratte est passée, puis qu'il nous reste pas grand-chose. Puis refaire des entrevues que j'ai déjà entendues sur l'antenne, ça, je vous l'ai dit une couple de fois, moi, ça me branche pas bien bien, d'autant plus que tout est facilement accessible maintenant avec l'application, puis tout ça.
C'est à prendre en compte que, de toute manière, c'est sûr qu'on va avoir des analystes qui vont jaser avec nous. T'sais, une Antonine, c'est certain qu'on
ben
va
oui,
parler. Ah ben
oui, je vais parler avec Antonine.
On va faire le tour, mais tu sais, s'il y a des demandes spéciales que vous avez, on est à ça planifié.
Tu sais, mettons, les chefs de parti, trouvez-vous ça important de les recevoir ou ça donne rien? On pourrait y aller circonscription par circonscription, mais c'est un travail de moine. Puis bien franchement, moi, j'ai des collègues qui le font bien ici, mm-hmm. là, qui le font très bien. Si je trouvais pas que la job était faite, je voudrais toutes les ravoir en entrevue, mais...
C'est pas vrai, ça.
Hein?
C'est pas vrai, ça.
Non, je voudrais pas plus. Non. J'essayais de bien paraître. Ouais, c'est ça. OK, c'est mauvais bluff. Mauvais bluff, désolé.
Sinon, dans les autres nouvelles... Ah, je veux vous parler... Oh non, je vais en glisser un mot parce que tantôt, j'ai skippé un bout d'actualité. Demain, les médias sont conviés du côté de Lévis parce qu'on veut présenter une campagne municipale pour lutter contre le vandalisme. Puis un peu... parce que ça m'a amusé cet été de voir le vandalisme qui avait été fait du côté d'un viaduc du CN puis du côté du golfe de Lauve-Rubière en changeant les lettres.
C'est pas du vandalisme, c'est de la créativité. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on a fait du côté de Lauve-Rubière?
Ils ont écrit rage de flux avec les lettres qui ont changé.
C'est incroyable.
Mais le véritable vandalisme, puis c'est des auditeurs qui ont suivi cette actualité-là. C'est des abribus, entre autres, de la Société de transport de Lévis qui, à la fin juillet, ont été vandalisés. Puis c'est vrai, il y a eu des images de ça beaucoup. Il y avait le chalet du parc dans le secteur de Charny aussi, à la fin mai, qui a été vandalisé. Fait qu'on essaie de...
Vous parlé aussi de toilettes publiques.
Ben, c'est dans ce, entre autres, dans ce, ah ouais, ça, des chalets de parc.
Ben, ça rentre dans la section
là.
Rage de flux. Là. Ça pourrait être le nom du prochain duo instrumental québécois. Après angine de poitrine, rage de flux.
Mais c'est tout comme ça, ils sont bien métal. Mais mon préféré, c'est le viaduc.
Ah, Jésus, c'est un vieux graffiti. Là.
Ben oui,
Jésus,
vous l'avez tout vu, là.
Prêt,
ben oui.
Puis ils ont tassé le SUS de Jésus. Fait que je reviens bientôt, es-tu prêt?
C'est incroyable.
C'est tout. Puis le CN n'a rien fait parce qu'ils n'ont jamais touché à ce graffiti-là, anyway. Là.
Hey, à date, là, c'est pas une grosse étude scientifique, mais à date, ce que les gens veulent, c'est un bilan de la journée pendant la campagne électorale. Fait que s'il y a des choses qui se passent à l'antenne, c'est de pogner les bouts. Nous autres, réagir à ce qui se passe, évidemment.
Oh, on va voir les extraits aussi. Là.
On ne pourra pas ne pas parler de politique. Il y a des gens qui voudraient qu'on ne parle pas de politique. Notre job, c'est de réagir à ce qui se passe autour de nous autres. En pleine campagne électorale, évidemment, on va réagir à ce qui se passe autour de nous autres. Mais pas beaucoup de votes en faveur de la présence de politiciens ou de politiciens en devenir.
Mais en même temps, je comprends. T'sais, c'est comme tellement une période où tout le monde leur court après. Ils disent la même affaire partout.
Ouais.
Les grandes lignes, TESA. Mm-hmm. C'est bête à dire, mais on ne changera pas plus la donne des avoirs dans le retour. Le rendu là, on est peut-être mieux de faire un bon résumé. Puis si on a des collègues qui ont la chance de les avoir, ben à ce moment-là, on sortira des extraits. C'est
exact.
Des choses importantes.
Personnellement, je trouve que votre force, c'est de nous informer, mais surtout de nous divertir dans le retour. On est là pour divertir! Après nos journées surchargées, alors lâchez-nous avec les élections. Salutations à Denis et à tous les autres qui nous ont... texté. Ce qui me rassure, c'est qu'on voit tout ça à peu près de la même façon. Là.
Ouais.
Autant autour de la table là, que dans ce que je lis
présentement. Mais vous venez de ralentir mon automne, je vous remercie.
C'est-tu vrai qu'on parle à Kevin Owens demain?
Oui, c'est vrai.
Oh,
17h.
Wow!
T'es content, hein?
Ah oui, j'ai vraiment hâte.
C'est juste pour toi.
Vraiment, vraiment hâte. Oui, Véro,
il me reste une dernière nouvelle parce que là, tu sais, je sais qu'il y en a qui sont à l'écoute depuis 14 heures qui disent « Oui, mais pourquoi vous n'avez pas parlé du véritable scandale du jour? » Il faut se parler de ce groupe Facebook qui a été mis en ligne un petit peu plus tôt aujourd'hui qui s'appelle le Groupe d'action contre les règles abusives d'Ilsonic. Ilsonic, c'est un festival électro à même place que Oshiaga, à même place que l'Asso. C'est quand même...
C'est gros.
C'est quand même assez gros.
C'est quoi le nom du groupe? Tous unis contre l'Ilsonic?
Non, c'est vraiment le Groupe d'action contre les règles abusive d'Ilsonic. Salutations aux 168 membres. Je sais pas.
T'as barnouche, ça va aller où, hein?
Ce train va loin.
Attends, on est en bas de la capacité. C'est que les organisateurs du festival Ilsonic ont envoyé hier soir, donc 5 jours 5 jours avant le début de ce festival-là c'est de chiant, musique électro, hein. Les nouvelles règles sur les sacs qui vont être acceptés sur place.
Puis là, ça prend des sacs transparents?
Il y a beaucoup de festivals à travers le monde qui ont commencé à amener cette règle-là pour faciliter l'entrée au site puis faciliter aussi la fouille pour la sécurité.
Il faudrait que je change ma sacoche.
Bien, tu ris, mais c'est un petit peu ça.
Ah, vous êtes donc bien
simple. Mais
non, mais attends, là. Quoi? Mettons, c'est dans 3 jours, 4 jours au moment où on se parle. Ça, ouais. Là, c'est dans 5 jours. Bon, okay, vous exagérez peut-être un peu, là. Mais mettons, là, tu sais, des sacs transparents, ça ne court pas les rues au moment où on se parle.
Ça rend rap, ça fait?
Je vois un IGA. Je vais mettre mon portefeuille, Audrey, dans un Ziploc. Puis
ça,
je vais
c'est très intelligent. Mais les influencers te font dire que c'est pas très hot.
C'est le bout qui me fait vraiment rire.
Ben oui, mais c'est parce que je veux pas un sac transparent. Les gens vont voir ma drogue.
C'est un peu ça le point aussi. Parce
que, comment je vais faire pour rentrer illégalement mes substances illicites?
Il y a une festivalière mécontente. Qui s'appelle Maïka Huard, de ce que je peux comprendre, qui a participé à lancer ce groupe-là, qui avait acheté au cours des dernières semaines un sac spécialement pour le festival, qui était conforme aux règles.
C'est un Gucci.
Puis là, là, je pensais que c'était un poisson d'avril en retard ou une mauvaise blague. Ça, c'est dans le texte de la presse qui est sorti un petit peu plus tôt aujourd'hui.
Si ça, c'est un enjeu de société, on vit dans une place où ça va relativement bien.
Là, l'objectif du groupe Facebook, c'est de faire une plainte à l'Office de la protection du consommateur.
Oh, Seigneur, là! Ah, non, mais là, ça, c'est poussé, là. Commandez sur Amazon, là, vous allez le recevoir après demain. Mais, ça va bien aller.
Audrey, avec une ganse.
Il y a peut-être, ouais, moi, un tie wrap autour de l'épaule avec un...
Hey, vous pouvez créer une nouvelle tendance, les influenceurs, hein? Il y a peut-être de quoi qui va sortir de ça.
Mais y a-tu quelque chose qui heurte votre vie privée que je comprends pas, là, parce que je...
Ouais, acheter un nouveau sac. Acheter un nouveau sac, puis il y en a pour certains,
c'est... Avec mon kit.
C'est ça, puis là, c'est faut que tu te revires de bord, puis c'est lettre, puis il y a tout... Écoute, mais moi, par exemple, si j'étais entrepreneur de cœur, je me lancerais en business au Québec, là.
Il y a bien des sacoches pas transparentes qui sont fucking lettres, là, je veux dire.
Je suis d'accord avec toi.
Je me souviens qu'à l'époque où il y avait les ailes de la mode à Québec, puis pas le bout de la fin où c'était juste des soldes avec des panneaux jaunes, là, le bout où c'était glam, puis où toutes les filles à l'université voulaient travailler aux ailes de la mode, les employés devaient aller au travail avec un sac transparent pour être certain que personne
qui vole pas de stock.
Ouais.
Ah ouais.
Hey, je savais pas.
Je sais pas, il y a peut-être du monde qui sont outrés là, parmi les auditeurs, mais puis moi, je me dis qu'à un moment donné, pour certains shows d'aréna, ça va finir de même aussi.
Ben, tu sais, déjà que depuis plusieurs années, tu sais, on a une sécurité qui est supplémentaire. Mm-hmm. Si ton sac à main dépasse la grosseur d'une feuille 8,5 par 11, tu peux pas le rentrer.
C'est plate en une circonstance, c'est quand tu es touriste puis que tu vas voir des shows ailleurs.
Oui, mais maintenant...
Parce que souvent, tu pars avec ton pack-sac. Parce que tu t'en vas passer la journée, tu pars de ton Airbnb, tu pars de ton hôtel.
Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant?
Il y a des vestiaires.
Des vestiaires qui sont très bien faits. C'est quand on est allé voir le Heat de Miami. Eux autres, là, le sac à main que tu as le droit de rentrer, là, c'est la grosseur d'un portefeuille. Puis, moi, j'avais un sac bien normal. Là. C'était pas une sacoche que je pouvais traîner ma vie dedans. Fait qu'on s'est loué carrément des espaces dans les petits vestiaires en question. Puis notre sac a été là pour le match. Puis ça a super bien été. Puis on a survécu. J'étais avec Sylvie Goulet. Puis elle a survécu aussi. Là. Il n'y a pas eu de crise. Il n'y a pas rien eu.
J'étais avec Sylvie Goulet, réputée pour être une femme de sacoche.
Ben, c'est ça, exactement. Elle avait un très beau sac. Elle a trouvé une place dans une case. Puis elle a survécu à sa soirée où le I de Miami avait perdu son match de mémoire.
Fait que ça fait le tour.
Oui.
Il est 17h50. Oui.
Allez vous abonner à la page là, si vous êtes tout rire.
Oh, ils sont encore juste 168.
Ben là,
Colin.
Tabarnouche. Fait que vous êtes pas outrés.
Tantôt, c'était 161. Ça veut dire qu'il y a 7 personnes outrées qui se sont ajoutées en date de minutes. Ça va vite.
Vous écoutez Boulevard 102.1, Gravel dans le retour. Un endroit où il y a 7 personnes outrées des sacs transparents à l'île Sonic.
Le rock'n'roll a vu le jour dans les années 50. De l'invasion britannique en passant par le prog... Le hard rock, le grunge et le rock des années 2000. Du vinyle au streaming. Voici l'histoire du rock dans Gravel dans le retour.
Je suis pas économiste, je suis pas planificateur financier, mais je peux vous dire que diversifier son portefeuille, c'est bien. Un 4 août 2021, elle a été déclarée l'artiste féminine qui faisait le plus d'argent sur la planète. Il y a juste une femme qui faisait plus d'argent que elle, et c'était Oprah Winfrey. On parle de qui?
C'est-tu Rihanna?
C'est Rihanna.
Avec ses sous-vêtements et son maquillage.
C'est deux très bonnes réponses. C'est un empire de 1,7 milliard. Et Rihanna a réussi à le faire principalement avec ses compagnies alternatives. Tu as parlé de ses sous-vêtements. Puis l'autre chose, c'est ses produits de beauté,
ouais,
effectivement.
J'ai contribué à ça, là,
du bon produit. Oh, oui. Pour vrai? Oh, oui. J'ai jamais essayé.
Puis juste pour ces bobettes, là, c'est 270 millions de dollars de profit. Le fait qu'elle chante devient accessoire dans la somme de sa fortune, ironiquement.
Ce qui donne beaucoup de liberté. Tu sais, depuis une couple d'années, on dirait qu'elle a fait des enfants, puis elle vit sa best life. Puis hier, elle était au carnaval de la Barbade, comme elle fait chaque année, ouais, avec son kit hyper coloré. Là. Elle a l'air d'avoir bien plus de fun que quand on l'a vu au Centre Vidéotron.
Un 4 août 2017, c'est vraiment le timing de l'année où on parle des gros hits d'été.
Ben oui.
Hier, je vous ai parlé de Macarena dans l'histoire de la musique. Qu'est-ce qui était numéro 1 un 4 août 2017?
Aucune idée.
Et pourtant.
Oh mon Dieu, descend, je vois pas bien.
Luis Fonsi!
T'es-tu allé à son show cet été? Oui, j'étais allé à son show cet été. Puis, c'était épouvantablement mauvais. Mais je m'explique.
C'est vrai que son PowerPoint multicolore qui a servi d'écran géant sur les plaines, c'était rough.
Les filtres, c'était pas facile. Mais je dois dire que le problème était vraiment dans le fait que tout le monde s'attendait à danser comme le latino des dernières années.
C'était pas ça.
Ce sont nos attentes qui étaient mauvaises parce qu'honnêtement, il y a des gens de la communauté, mettons, colombienne qui ont trippé. Mais c'était comme du latino lirage de peine d'amour.
Oh.
Fait qu'il n'y avait pas de danse.
Ça n'a pas été la cif pour deux semaines.
Oh non, on a bu de l'eau.
Un 4 août 2017, Despacito, plus précisément, est devenu le vidéo le plus vu de l'histoire de YouTube.
Despacito. Despacito, là.
Quoi? Ça fait une nouvelle sorte de chip épicé. J'haïs pas ça. Moi, j'en mangerais des Despachitos.
Despachitos.
Comment ça se fait qu'ils ont pas sorti ça? Avec le tigre et les lunettes de soleil, les Despachitos.
Hey, ça aurait été bon en tabarnouche.
Il est un petit peu tard, par exemple, pour revenir là-dessus. C'est 3 milliards de vues en 7 mois pour le vidéo YouTube de Despachitos. Deux nouvelles sur Mariah Carey et on s'en va à deux places différentes. Vous vous souvenez hier que je vous ai parlé de gens connus au Québec dans une poursuite où on n'a pas le droit de dire
absolument
c'est qui, où on racontait que Cédric avait engagé des espions pour espionner Mona dans leur séparation, là, où on se partage des fortunes de centaines de millions de dollars. Ben, Mariah Carey a fait ça un 4 août 2001. Le News of the World qui rapportait que Mariah Carey avait engagé un détective privé pour espionner son ex-époux, qui n'est pas n'importe qui, Tommy Mottola.
Ah ben oui, qui est Sony.
Oui, effectivement, un président de compagnie de disques. Et le détective privé Jack Palladino avait révélé que Mariah Carey lui avait demandé d'enquêter plus spécifiquement sur le fait que Tommy Mottola avait monté une campagne pas de désinformation, mais une campagne de salissage contre Mariah Carey pour essayer de la barrer à certains endroits et ainsi de suite. Fait qu'en 2001, on peut comprendre que ça allait pas super bien pour Mariah Carey.
Dans 3 mois, elle revient sur la map. Hein?
Ah ben c'est Noël, hein?
C'est le 1er novembre,
hey, déjà, c'est incroyable. Ça allait peut-être mieux un 4 août 1990 pour Mariah Carey parce qu'elle commençait une run de 4 semaines au numéro 1 grâce à la chanson Vision of Love. Nominée pour 3 Grammy Awards. Denis, lâche-nous avec Mariah Carey. On va entendre des affaires qui rentrent, qui rock plus que ça. D'accord. Un 4 août 1990.
Qui rock plus que ça?
Je voulais m'amuser.
Ouch, mais c'est-tu fait qu'une gorgée d'eau?
Spectacle des New Kids on the Block du côté de Montréal. Alors que 3 cambrioleurs dévalisent le stock de marchandises des New Kids on the Block pour réussir à partir avec le profit des ventes ce soir-là.
Je pensais qu'ils étaient partis avec les chaînes de Donnie Wahlberg.
Une somme de 260 000 $ qui a été dévalisée et jamais retrouvée. Un 4 août 1984, cet album-là devient la 7e trame sonore de film la plus vendue de l'histoire. Prince lance Purple Rain, son sixième album studio, sur lequel on retrouve la pièce-titre, mais aussi When Doves Cry et Let's Go Crazy, 24 semaines au top du palmarès des albums les plus vendus aux États-Unis. Un 4 août 1967, un groupe alors inconnu enregistre son premier album à côté des Beatles au Abbey Road Studios. Les Beatles sont en train d'enregistrer Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et à côté, un jeune band dont le leader s'appelle Syd Barrett enregistre son premier album, The Piper at the Gates of Dawn. On parle de Pink Floyd. Un album salué par la critique à l'époque. Et on parle aujourd'hui, avec le recul, d'un des albums les plus importants de l'histoire du rock psychédélique. En 1964, le guitariste de la formation The Kinks décide de jouer avec son amplificateur et une lame de rasoir. C'est comme ça qu'il réussit à créer le son de distorsion sur la guitare de la pièce You Really Got Me, qui allait devenir leur plus grosse tune à vie. Minimum de 16, dégagé ce soir, cette nuit. Soleil demain, max de 28. Soleil jeudi, maximum de 30. Pas pire. Bras dans les airs, pattes dans les airs, on va aller se coucher. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. On se reparle demain, 14h.
Salut! Bye.